de leur salaire quand ils ont à peine le pouvoir d'achat nécessaire pour vivre dignement, etc., etc. Voilà, il est temps qu'on nous dise avec des mots simples ce que veut dire une réalité qu'on nous prédit catastrophique. Merci beaucoup.
Le désarmement du pouvoir financier doit devenir un chantier civique majeur si l'on veut éviter que le monde ne se transforme en une jungle où les prédateurs feront la loi. Ces lignes datent de 1997, décembre 1997, dans Le Monde diplomatique. C'était un éditorial signé Ignacio Ramonet et qui ouvrait la création du mouvement ATTAC. 1997, il a fallu du temps pour que ce message prenne du sens dans l'opinion, mais c'est le cas aujourd'hui. Tout le monde, mais alors vraiment tous les Français, en tous les cas nos auditeurs, veulent absolument comprendre comment fonctionne l'économie, qu'est-ce que la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que c'est que la dette publique, pour tout un tas de raisons que vous connaissez, que nous essayons de vous faire connaître. Aujourd'hui, nous recevons les économistes atterrés qui publient un nouveau bouquin, « Changer d'économie, nos propositions pour 2012 », un livre qui sort ces jours-ci, où, ben vous avez compris, ils font un état de la situation économique en dehors, autour des 3A qui nous inquiètent tant, et ils font des propositions pour les mois, années à venir. Les uns sont plutôt radicaux, les autres sont réformistes, mais ils sont tous hétérodoxes, opposés au néolibéralisme actuel qui nous a conduit à cette impasse, et ils sont évidemment pour le désarmement des marchés. Henri Sterdignac, Dany Lang, Benjamin Coria, Christine Herel, Pierre Concialdi sont nos invités aujourd'hui jusqu'à 16h dans la basse. J'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Ce soir à 20h, donc au Café Repère l'Imaginaire, dans le Vieux-Nil, nous recevons l'économiste Laurent Cordonnier. Il est maître de conférence à Lille 1, chercheur au CNRS. Il collabore au Monde diplomatique. Il nous parlera et nous échangerons ce soir sur la crise, l'euro, les dettes publiques, etc. Venez donc nombreux ce soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire et à plus.
Fin de jour exquise et sereine. C'est en Provence à la Famée, dans l'air languide et parfumé, une odeur de foin coupé traîne. Le dernier rayon s'effaça à l'Occident, soudain plus pâle, grelottant sous son petit châle, une chauve-souris passa. Le tronc d'un pin encore rougeoie, puis devient gris rapidement, comme succède en un moment la mélancolie à la joie. L'une grande, l'autre petite, deux étoiles soudain en lui, et tremble en attendant la nuit. On songe à Bérénice, à Tite. Tu dis, écoute, un rossignol. Sur le golfe, un reflet s'obstine. Pour obéir à la Martine, le temps charmé suspend son vol. François D. Certaines se réalisent dans le combat politique. D'aucuns ont la fibre d'écrivain. Tels aiment les enfants et se réalisent dans la famille. Moi, finalement, ce qui m'aura le plus plu et ce que j'aurais fait le mieux sur cette petite terre rigolote, ce sont les bouquets. Bouquets de poèmes, bouquets de fleurs, voilà. Peut-être bouquets de visages sur certaines photos. C'est ce que j'aimerais qu'on grave sur ma tombe, si jamais par hasard on m'enterre au lieu de m'incinérer, comme c'est la mode en ce moment. On dira, elle ne savait pas faire grand-chose, mais Dieu qu'elle faisait de jolis bouquets.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec les économistes atterrés, changer d'économie, proposition pour 2012.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, je sens mes Je sens mes invités extrêmement nerveux. Cette émission est diffusée aujourd'hui lundi à 15h, mais elle a été enregistrée, on va tout vous avouer, vendredi. On a commencé cet enregistrement à 17h36. Ça se préparait gaiement, plutôt avec un certain dynamisme, avec des gens... Et puis finalement, ils sont morfondus, ils sont morts d'inquiétude, ils ont failli annuler cet enregistrement parce que la France entière, quand je dis la France, c'est bien plus que ça, est suspendue à la décision de l'agence de notation Standards & Poor's et on va peut-être être dégradé, amis français. J'espère que vous êtes tous français d'abord, vous autres. Je vais avoir votre réaction mais là-dessus quand même, avant de commencer, mais je vais vous présenter les uns et les autres. Vous êtes les économistes atterrés, quelques-uns parmi les économistes atterrés, un mouvement dont vous allez nous parler. Vous êtes aujourd'hui 5 seulement autour de ces micros, mais vous êtes 27 à avoir signé ce bouquin qui est sorti le 11 janvier 2012, « Changer l'économie, nos propositions pour 2012 ». Voilà, donc des gens qui veulent changer les choses sont toujours les bienvenus à la base si j'y suis. Il y a avec nous Henri Sterdignac, Benjamin Coria, Dany Lang, Christine Herel et Pierre Concialdi, qui sont tous des profs prestigieux, des maîtres de conférences, des gens extraordinairement importants, avec des titres de noblesse universitaire de savoir que faire. Je voudrais savoir avant, parce qu'on a fait une émission récemment, sur tous ces experts économistes qui circulent sur les plateaux de télévision et de radio. Vous êtes des petits nouveaux, vous venez seulement d'arriver, ça fait longtemps que d'autres vous ont précédé. Et la critique qui a été faite dans la base, j'y suis, c'était de dire, ah oui, ils se présentent avec leur titre universitaire, mais ils ont des liens avec tantôt des banques, avec tantôt des fonds d'investissement. Est-ce que c'est le cas de certains d'entre vous? Avant de commencer, j'aimerais bien avoir des aveux détaillés.
Ah bah, sauf si Henri nous a caché quelque chose, je crois que c'est le cas d'aucun d'entre nous.
Oh, mais je m'en doutais un petit peu, mais je voulais en avoir la certitude. Donc... vos réactions, qui veut commencer? Henri Sterdignac, par exemple, comment vous réagissez à cette crainte de voir abaisser notre AAA?
Il paraît que nous avons perdu notre AAA. C'est une nouvelle qui ne nous surprend pas, puisque ça fait 2-3 mois qu'on est menacé. On constate actuellement que les États sont mis en menace permanente par les agences de notation et les marchés financiers, qui veulent nous imposer des politiques d'austérité, des politiques de rigueur. La crise est l'occasion pour les classes dirigeantes de reprendre la main. Leur objectif, c'est de faire payer la crise aux salariés, aux titulaires de la protection sociale, avec une menace épouvantable. Si effectivement vous ne nous obéissez pas, vous allez être privé de votre triple A, vous allez devoir payer des taux d'intérêt exorbitants. Et en même temps, on voit très bien que lorsqu'on cède à la menace de ces agences de notation, le résultat, c'est la récession, la croissance du chômage. Les soldes publics ne sont pas améliorés, puisque la récession fait chuter les rentrées fiscales. Et le résultat, c'est que les agences de notation, les marchés financiers reviennent à l'attaque en disant « on ne peut pas vous prêter parce que vous êtes en récession ». Donc la grande question, c'est... qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les peuples peuvent faire? Qu'est-ce que les salariés peuvent faire pour envoyer promener les marchés financiers, les agences de notation? Sinon, si on essaye de les rassurer, on va à l'abîme.
Alors, mais comment on peut leur dire non? Qui veut répondre? Puisque là, vous êtes, votre bouquin, ça consiste en des propositions. Oui. Alors, comment est-ce qu'on leur dit non? Benjamin Coria.
Oui, je voudrais juste enchaîner un tout petit peu sur ce qu'a dit Henri avant de venir à la réponse à la question. On ne va pas du tout l'esquiver. On a assisté à un véritable hold-up, hein. C'est-à-dire que, alors que la crise était d'abord et avant tout une crise financière, hein, de 2008-2010, avec l'explosion en plein vol de Lehman Brothers et derrière de tout ce qu'il y avait de plus sophistiqué dans la finance internationale, cette crise a été ensuite convertie en crise des dettes publiques, parce qu'il a fallu s'endetter pour les sauver. Les hold-up auxquels on a assisté, qui est à la fois intellectuel et physique, c'est qu'on nous a fait croire ensuite, aujourd'hui, que la crise, c'est une crise des dettes publiques et que, en gros, il n'y a pas vraiment de problème de finances, qu'il faut plutôt les rassurer qu'autre chose. Bon. Et c'est la situation aujourd'hui dans laquelle on est. Donc, au lieu que la crise ait permis, comme elle aurait dû, de revenir sur la financiarisation totalement folle de l'économie qu'on avait connue. La finance fait un progrès et prend le contrôle, à travers les agences de notation et différents dispositifs, des budgets publics eux-mêmes. Donc au lieu de reculer, elle progresse. Bon, alors, ça, c'est pour dire le point où on en est, et c'est quand même un des motifs pour lesquels nous sommes tous profondément, et c'est pas des blagues, atterrés par la nature du débat, la nature des arguments échangés, et cette capacité absolument incroyable à non seulement ne pas attaquer les choses au fond, mais à se saisir de la crise financière pour faire progresser la finance. Alors, comment la tenir à distance dans un premier temps, avant de pouvoir la domestiquer? Bon, le livre contient beaucoup de propositions, mais sur la question des dettes publiques, Charlie Hsieh les a tirées, il y a au moins deux propositions qui sont d'ailleurs en partie complémentaires et qui seraient suffisantes, en tout cas pour regagner un peu d'espace. Et ces deux propositions, elles sont très simples. C'est que la Banque Centrale Européenne déclare qu'elle achètera les titres de la dette publique à des taux d'intérêt qui doivent être évidemment bas, et non seulement déclare, ce qui devrait suffire, mais le fasse. Bon, à partir de là, on n'aura pas du tout tout résolu. Il y a plein d'autres problèmes. Mais au moins, on va retrouver un espace en matière de politique
publique. C'est faisable, ça? C'est votre proposition? Est-ce que c'est audible? Parce que ça reviendrait à la situation que connaît le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est-à-dire d'emprunter à leur propre banque.
Mais bien sûr que c'est faisable, parce que à quoi on assiste? La Banque Centrale Européenne, c'est... que probablement, à un moment, elle va le faire. Bien. Pour le moment, elle essaye d'éviter de le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert des guichets, elle a distribué 500 millions d'euros...
Milliards, pardon.
500 milliards d'euros aux banques européennes.
Les auditeurs auront corrigé d'eux-mêmes.
Oui. En leur disant, mais achetez, vous voyez, on vous donne de quoi acheter. Sauf que c'est extrêmement malsain, parce que ce matin, ils ont acheté entre 5 et 6%. Et on trouve que c'est très bien. Hein, qu'ils aient acheté un peu de dette italienne et espagnole, entre 5 et 6%. Il aurait été beaucoup plus sain que la Banque Centrale achète à deux, hein, pour les États, et pour libérer un espace précisément pour les politiques publiques. What they know, what is what, but they don't know what is what. What they know, what is what, but they
don't know what is what. Pas toujours les banques prélevées, leurs intérêts. À l'État, aux entreprises, mais ça reste nos deniers. On voit que sont ces intérêts qui sont prélevés. Les budgets de l'État devraient être plus équilibrés. Donc c'est sur le mercure en chrome, sur la jambe de bois. Et ouais, on le voit nous aussi, peut-être pas comme tu nous vois. Peut-être mieux même, c'est sur vu d'en bas. On voit bien la façon dont tu leur emboîtes le pas. C'est beau comme tu véhicules la justice par tes choix. Et si je fais front, c'est parce que moi aussi je te vois. T'es complexé, la barre et le navire tangue. La bouche en cœur, la France est prête pour un nouveau plan de bain. They know what is what, but they don't know what is what. L'inquiétude et l'un des sentiments qui rassemblent. Joie et colère pour les vraies révoltes vont ensemble. Joie d'avoir résisté aux actes corrompus. Colère contre le pouvoir qui menace l'individu. On voit bien les mesures sociales, en fait libérales, qui sont pour le patronat et pas la masse salariale. On voit pas le mouvement populaire censé représenter ton gang, ta famille, les cliniques, les UMP. On te voit depuis longtemps dire tout et n'importe quoi. Et botter en touche à propos du pouvoir d'achat. Pourquoi monter des commissions pour ce qu'on sait déjà? Tu nous l'as bien mise et qui a bu boire. They know what is what, but they don't know what is what.
What they On est toujours avec les économistes atterrés autour de leur livre « Changer d'économie, nos propositions pour 2012 ». Alors, on va revenir quand même au commencement. Ce mouvement, on a compris en gros ce qu'est votre mouvement, mais j'aimerais bien qu'on en ait un peu l'histoire. Qui veut le faire? Danny Lang, par exemple?
Alors, au départ, il y a quelques économistes, ils étaient deux. Au départ, on s'est rapidement retrouvés...
Karl Marx et Engels.
Pas vraiment. Justement, on est plus différents que ça. Ça ne se limite pas du tout à un petit spectre, je pense, de l'économie. Et ce qu'on avait en commun au départ, quand on s'est réunis, il y avait André Orléans, Henri Sterdignac, Philippe Askenazi, etc. C'était au moment de la crise grecque. C'est de voir qu'on entre dans une crise probablement la pire depuis 1929, et maintenant, effectivement, c'est le cas, et qu'au lieu de prendre les choses en main, au lieu de changer de logique, au lieu de changer les politiques, on reprenait la même logique qui prévalait avant la crise en l'accentuant. Et d'ailleurs, en prenant prétexte de cette crise pour mener les réformes néolibérales que les gouvernements n'arrivaient pas à mener avant cette crise. Donc les économistes atterrés sont partis de cette situation complètement désastreuse, complètement atterrante.
Mais comment vous avez fait pratiquement? Vous vous êtes envoyé des mails les uns aux autres sur Facebook économiste atterré, recherche en... et plus y affinité.
Non, au départ, on s'est retrouvé un petit groupe dans un café. On voilà. s'est dit, c'est pas possible. En tant qu'économiste, on a une responsabilité. On peut pas laisser en permanence faire croire qu'il y a un seul discours économique, celui qui est porté par les économistes chiens de garde des banques ou du grand capital. Il faut qu'on intervienne. Donc, on s'est partagé le travail sur certains sujets. Certains sont intervenus pour dire les marchés financiers ne sont pas fiables. On ne peut pas utiliser les marchés financiers pour analyser l'économie réelle parce que les marchés financiers, ils se trompent en permanence. Ils font des bulles. Ils ont des phases d'exaltation et des phases de dépression. On est intervenu pour dire la solution préconisée, demander à tous les peuples de se serrer la ceinture, ça va nous amener à la catastrophe. Et on constate effectivement que la catastrophe est là. Et puis, on est intervenu pour dire bah, l'Europe, c'est vraiment une chance loupée, puisqu'au lieu que l'Europe, ce soit un instrument des peuples contre les marchés, au contraire, c'est un instrument des marchés contre les peuples. Donc, on s'est partagé le travail, on a écrit un petit texte qu'on s'est échangé, et puis il y a 2000 personnes qui nous ont soutenus, parce que notre but, c'est aussi d'intervenir dans notre champ disciplinaire pour dire l'économie, ce n'est pas la vulgate néolibérale. Il y a autre chose à faire, il y a autre chose à dire.
Henri, ça fait un bout de temps quand même que la vulgate néolibérale est dénoncée. J'ai sous les yeux un texte d'Ignacio Ramonet, dans Le Monde diplomatique de décembre 1997, qui s'intitule « Désarmer les marchés ». C'est un texte fameux qui commence ainsi. Le typhon sur les bourses asiatiques menace le reste du monde. La mondialisation du capital financier est en train de mettre les peuples en état d'insécurité généralisée. Elle contourne et rabaisse les nations et leurs états en tant que lieu pertinent de l'exercice de la démocratie et garant du bien commun. C'est le texte de base d'attaque qui a été créé en 1998. Ça fait quand même 15 ans qu'il y a une série d'observateurs, d'intello, ou pas d'intello d'ailleurs. Et ça a mis quand même du temps à ce que le constat du méfait des politiques néolibérales s'impose à tous. Alors aujourd'hui, ça s'impose effectivement à tous. Tout le monde fait le même constat maintenant. Mais par rapport à ce constat, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui disent on va faire en sorte que tout change pour que rien ne change, hein, qui sont là pour dire un autre capitalisme est possible. Hein. Là, j'ai un numéro du magazine L'Express qui s'étonne de la crise. Et puis, il y a une tendance peut-être un peu plus radical que ça. Où vous situez-vous, ami économiste atterré?
Si vous voulez, la nouveauté des économistes atterrés...
C'est Benjamin Coria qui parle.
Oui, si je peux me permettre, c'est quoi? C'est que, bon, face à, on va dire, la grande armée, des médias, des think tanks organisés autour du libéralisme, etc., il y avait toute une série de voix dissonantes, hein, bon, qui chacune dans son coin essayait de se faire entendre. La nouveauté, je pense, avec les économistes atterrés, c'est que on a réussi à se regrouper et à faire entendre une voix, si je peux dire, non plus de manière séparée, mais tous ensemble. Il y a un nouveau quartier général. Donc, il y a un site, on en est à notre troisième livre, etc. Bon. Et on est extrêmement surpris par l'importance de l'audience qu'on a. Comme si les gens n'attendaient que ça. C'est un peu ce qui s'est passé avec le référendum, où dans les médias, on n'entendait que des éditorialistes du oui, tous les autres étaient des ânes, des crétins, qui n'avaient rien compris à rien. Oui. Et il y avait un mouvement grassroots, si je peux dire, qui s'est révélé majoritaire. Oui. On a un peu le sentiment que les gens attendez ce discours antilibéral sur le fait que on peut faire différemment et autrement, et je pense que c'est pour ça que on a l'accueil qu'on a aujourd'hui. Les gens veulent entendre autre chose, et nous on a décidé de leur dire que cette autre chose est possible.
Voilà, alors on va prendre, si vous êtes d'accord, un certain nombre de domaines dans lesquels vous avez les uns et les autres œuvré. Vous êtes regroupés par petite équipe d'économistes. Et vous avez abordé toute une série de sujets, l'Europe, le travail, la fiscalité, la dépense publique, etc. Il y a 11 domaines de 11 chapitres, le dernier étant attribué à notre Frédéric Lordon, à nous.
Il est à nous aussi. Hein.
Oui, oui. On a Christine Herel, par exemple, qui a participé à un des chapitres sur l'emploi et sur le chômage. C'est quand même le sujet numéro un, parce que dans 24 heures, il y aura 1000 chômeurs de plus dans ce pays. Hein. C'est quand même un sujet urgent, brûlant, que celui-là. Quelle est votre analyse, votre regard, et quelles sont les pistes auxquels vous êtes
Alors, peut-être que commencer effectivement par les éléments d'analyse par rapport à ce que vous avez évoqué en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce dans quoi on est depuis maintenant plus de 20 ans en matière d'analyse du chômage et de l'emploi, c'est un paradigme dans lequel on nous dit que les causes du chômage sont à rechercher du côté des institutions du marché du travail qui ne seraient pas les bonnes. Donc, il faudrait les réformer pour arriver à diminuer le chômage. Donc, en pratique, comme on est effectivement dans un paradigme néolibéral, réformer ces institutions, ça signifie réduire les protections dont bénéficient les salariés. Hein, c'est ça le message effectivement dominant des institutions internationales comme l'OCDE, par exemple, depuis une vingtaine d'années. Le but étant d'arriver à une situation dans laquelle on arriverait par ce biais à baisser le coût du travail et à gagner en compétitivité. Alors ce qu'on dit dans ce chapitre, c'est que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas fondé, à la fois du point de vue théorique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres manières d'analyser les causes du chômage et d'analyser effectivement le fonctionnement du marché du travail, et aussi du point de vue empirique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qui donnent tort à ces théories. Donc ce ne sont pas nécessairement effectivement les pays dans lesquels l'indemnisation du chômage est la moins généreuse, dans lesquels on n'a pas de protection de l'emploi, dans lesquels on a un contrat unique. Hein, ce ne sont pas ces pays-là qui ont nécessairement les meilleures performances en termes d'emploi et de chômage. Donc le bilan, c'est que le modèle libéral tel qu'on nous l'a vendu ne fonctionne pas. En ce qui concerne les solutions... Au niveau français, ben effectivement, il faut revenir sur un certain nombre de politiques qui ont été mises en œuvre au cours des toutes dernières années, en particulier le cas de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui clairement, si la reprise se manifeste, ne pourra conduire qu'à de plus faibles créations d'emplois. Donc à mon sens, ça c'est vraiment un dispositif qui doit être supprimé.
Mais de façon plus générale, et ma question s'adresse à tous, quand on vous parle de protectionnisme, quelles sont vos réactions? Quand on vous parle de réindustrialisation, quelles sont vos réactions aux uns et aux autres? Qui veut répondre? Pierre Concialdi, il n'a rien dit jusque-là. Ça va être son tour.
Protectionnisme, je pense que ce n'est pas la bonne façon de poser la question. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de trouver des formes de coopération entre États pour aller vers des objectifs communs. À la limite, dans certains cas, des formes de protection sur certaines choses peuvent aider à construire ces formes de coopération. Mais je crois que le protectionnisme ne doit pas être vu comme une finalité, mais éventuellement comme un moyen, à mon avis, assez accessoire, et surtout, encore une fois, pour construire des coopérations entre États, davantage de solidarité, et vers des objectifs clairement identifiés, à mon sens, de progrès social et de progrès économique.
D'autres réactions sur le protectionnisme? Henri, non, vous avez envie de parler de ça? Vous êtes d'accord avec Pierre?
J'ai sans doute quelques nuances. On a une évolution de l'économie mondiale qui n'est pas acceptable. On a des pays, que ce soit la Chine, l'Allemagne, qui ont des stratégies où leur croissance est basée sur la conquête de marchés extérieurs, sur le fait qu'ils réussissent à être très productifs en distribuant peu de salaires et en ayant des systèmes de protection sociale soit pas développés comme en Chine, soit en dégradation comme en Allemagne. Donc tout ça fait des déséquilibres dans l'économie mondiale qui ne sont pas acceptables. Donc d'un côté, il faut faire pression sur ces pays pour qu'ils changent d'attitude. Il faut leur réclamer des hausses de salaire, l'instauration d'une protection sociale, d'une modification des taux de change. Et il faut une stratégie européenne parce qu'actuellement, la stratégie consistant à dire on va imposer aux pays du Sud des politiques d'austérité, c'est pas une stratégie porteuse. Et là, c'est de l'utopie complète, mais on a le même problème à l'échelle mondiale. On n'aura pas durablement des Chinois qui vont travailler à bas salaire avec des produits qui vont arriver de manière coûteuse en France. Il faut repenser la division internationale du travail.
Benjamin Coria, oui, intervenir sur ce thème-là.
Oui, je pense que, bon, un débat sur le protectionnisme, je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Et puis, de toute façon, ça doit être manié avec des pincettes pour des tas de raisons. Parce que ensuite, on va rentrer dans un monde de rétorsion réciproque. Parce que si on fait du protectionnisme, il y en aura de l'autre côté, etc. Par contre...
Mais qu'est-ce que font les États-Unis s'ils font quand même pas mal de protectionnisme?
Non, mais attendez. Moi, je veux, par exemple... Non, mais moi, je veux bien qu'on dise ça. Mais l'Europe, par exemple, en matière agricole, elle a dressé une barrière absolument insurmontable. Donc, moi, je passe ma vie en Amérique latine. Parler avec les Brésiliens, parler avec les Argentins des barrières à l'entrée de leurs produits en Europe. Donc, probablement, ce qui est en jeu, c'est de redéfinir un certain nombre de règles communes. Bon, qui sont, un, la clause sociale, deux, la clause écologique. L'OMC a totalement fait faillite. Elle a totalement fait faillite. Le cycle de Doha a échoué. Et cette organisation qui prétendait ne s'occuper que d'abaissement de barrières douanières, sans aucune considération, ni sociale, ni écologique, elle a fait faillite. Elle a explosé. Donc, il y a un espace là. Il y a un espace qui n'est pas du protectionnisme, mais qui permet de venir vers les rééquilibrages dont parlait Henri. Donc, clause sociale, clause écologique, ça, c'est sur l'agenda. Et la deuxième chose, là aussi, je vais dans le sens de ce qui a été dit, c'est la politique industrielle. Bon, moi, il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai longtemps beaucoup travaillé. En Europe, c'était interdit. C'était interdit parce qu'on avait M. Mario Monti, qui est aujourd'hui...
Ce qu'on sait,
qui était à la tête d'une forteresse gigantesque qui s'appelait la Délégation Générale à la Concurrence, à l'Union Européenne. Et donc, la mise en avant de la politique de la concurrence a bloqué... toute politique industrielle en Europe. Moi, je veux dire, c'est des choses que je connais bien. Même les programmes européens de recherche, les programmes technologiques européens, ils ont été construits par effraction, si je peux dire. Bon, donc, en même temps qu'on ferait la clause sociale, la clause écologique, et qu'on reverrait une série de choses, il y a de nouveau, et c'est une nécessité absolue, un espace pour la politique industrielle. Et ça, c'est absolument clair. Et les emplois, ils sont là. Ils sont vers les économies d'énergie, ils sont vers les emplois verts.
Attendez, allez doucement. Les économies d'énergie, les emplois verts...
On peut réfléchir à, des systèmes de transport collectif où on raisonnerait non plus en termes de déplacement individuel, mais en termes de fonction transport, logistique transport. Il y a là, c'est un troisième domaine, des espaces de politique industrielle et de création d'emplois extrêmement importants.
J'ai appris plein de choses pendant la crise financière. J'en connais maintenant sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses cicaves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, aujourd'hui on l'appelle Madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave. Allez, tous vous faire réguler, vous me faites rigoler. Allez tous vous faire spéculer. On nous a dit plein de choses pendant la crise financière. Ça viendra pas chez nous, ça venait du ministère. Les commentateurs perdus dans leurs commentaires, les experts en analyse du tout et de son contraire. Que ceux qui ne comprennent rien expliquent à ceux qui pichent que dalle. Pour le manque de liquidité, demandez aux banques centrales. Si c'est une chute des cours, faut réserver fédéral. Quand le libéral appelle au secours et nous fait la morale, c'est le paradis fiscal. Allez, tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer.
Ce qu'on a vu avec le progrès et l'installation des politiques néolibérales, c'est un accroissement des inégalités, qui ne se limite pas à ces grandes fortunes et à ces personnages qu'on nous présente comme au tir au pigeon, au baltrappe, mais par une véritable, un creusement très profond des inégalités. Et ça, c'est un domaine, évidemment, après ou avant le travail, extrêmement préoccupant.
Moi, je dirais,
Pierre Concialdi,
la grande période de réduction des inégalités, en tout cas dans notre pays, ça a été plutôt les années 70. Dans les années 70, on était sur des politiques de redistribution et d'inégalités, et grosso modo, ça a fonctionné, ça a permis quand même de fortement réduire le taux de pauvreté jusqu'au milieu des années 80. Et à partir de là, Depuis 83-84, on est dans ce qu'on appelle une politique de maîtrise des dépenses sociales, qui a consisté à les plafonner. Et à partir de 1993 jusqu'à 2008, la crise financière, on n'avait pas eu d'augmentation de la part des dépenses sociales dans l'ensemble des revenus dans le PIB. Hein, premier point. La question du déficit, elle vient dans une large part parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de financer la protection sociale. En grande partie parce qu'on a mis en place à partir de 93 notamment des politiques d'exonération des cotisations sociales. Il y a eu plusieurs rapports, notamment un rapport parlementaire qui a chiffré le manque à gagner fiscal à 100 milliards.
Donc c'est les entreprises qui sont responsables de ce déficit.
On les a exonérés de financer la protection sociale,
donc il y a moins
de ressources, effectivement.
Oui. C'est pas une crise de la dette, c'est une crise de la recette, on est bien d'accord.
Voilà, c'est une crise des recettes.
Et juste un tout petit mot, c'est une crise des recettes, et puis qui a augmenté, et qui a augmenté de 20% pendant le moment de la crise financière. Donc, d'une manière générale, en Europe, la dette publique, qui était aux alentours des critères de Maastricht, c'est-à-dire 60%, en 2008, elle a bondi à 80, 90, etc., en 2010. Donc, je veux dire, le grand trou, c'est celui de la crise financière. C'est pas celui d'une dépense publique petit à petit qui serait devenue abyssale. Oui, c'est fondamental, ce point.
Absolument.
Et là, je te redonne la parole.
Vous devriez le répéter sans cesse, marteler.
C'est absolument clé. Nous faire croire que la dette, qui est aujourd'hui à des niveaux effectivement importants, s'est creusée petit à petit parce que l'État était dispendieux.
Parce que nous avons tous trop dépensé.
Etc. Ça, c'est vraiment une escroquerie intellectuelle absolument fondamentale.
Mais cette escroquerie intellectuelle, c'est ce qui constitue la doxa
aujourd'hui.
C'est ce que tout le monde a dans l'esprit, y compris la plupart de mes confrères. Vous voulez continuer?
Les exonérations fiscales ont coûté pas loin de 100 milliards d'euros. Enfin, c'est tout à fait énorme ce qu'on a perdu en termes de recettes. Bon, je referme ce chapitre. Donc, premier constat quand même. Il n'y a pas de crise majeure et la protection sociale de financement et la protection sociale n'est pas un puits sans fond. Mais on a limité ses ressources. Et la conséquence, c'est que dans un contexte où on avait une montée du chômage, un vieillissement de la population, eh bien, il n'y a pas de miracle. Si on freine le volume des ressources et que les besoins continuent d'augmenter, eh bien, on diminue le niveau de la couverture sociale. Bon, c'est ce qu'on a fait avec les multiples contre-réformes en matière de retraite. C'est ce qu'on a fait aussi en matière de santé. En matière de santé, je donne juste un chiffre. 36% des bénéficiaires de la CMU déclaraient avoir renoncé pour des raisons financières à se soigner au cours de l'année écoulée. On a une régression, tendance à la régression de la couverture sociale. Bon, d'une part, on va avec ces politiques néolibérales vers une impasse parce que c'est l'accroissement des inégalités, mais elles coûtent plus cher. C'est ça qu'on dit pas assez souvent. En France, on a fait des réformes de retraite qui réduisent la couverture publique. Mais dans les pays où existent des systèmes en capitalisation développés et sur une base volontaire, ça coûte très cher à l'État parce que ce sont des dispositifs subventionnés. Premier point. Il y a d'autres coûts cachés qui sont simplement liés aux coûts de gestion. Dans les assurances privées, c'est pas 4 ou 5% de frais de gestion comme à la Sécu, c'est 4 ou 5 fois plus, c'est-à-dire 20 ou 25%. Et dernier aspect qui est pas négligeable à mon avis, c'est que les inégalités, notamment en matière de santé, elles sont très coûteuses. Parce que quand des personnes ont des difficultés à se faire soigner, elles retardent les soins, et ça traduit par des pathologies plus coûteuses. Et puis au bout d'un moment, il faut bien qu'elles aillent se faire soigner. Mais alors là, ça coûte cher pour eux, d'abord, évidemment, et pour la collectivité. Et je termine rapidement sur les propositions qu'on fait.
C'est ça qu'on attend.
Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, je vais aller très vite sur les propositions, mais elles s'organisent autour de trois idées. Il faut rehausser les minima sociaux, les prestations sociales. C'est le béaba, je dirais, de la protection sociale. Hein. On élève le socle minimal pour garantir des niveaux de revenus suffisants. Je rappelle, par exemple, que le RSA, hein, si on compare aux autres pays européens, c'est un des plus faibles, si ce n'est le plus faible, de la plupart des pays, en relatif, hein, au niveau de vie moyen des autres pays. Deuxième élément qui nous semble tout à fait important, c'est de redonner force à la notion de service public. Et la dernière proposition, la troisième, c'est qu'évidemment, il faut financer tout ça. Et une partie de la solution à ce financement, à notre avis, elle passe par une véritable politique de plein emploi qui se fonde sur un approfondissement, la réduction du temps de travail. Parce que les libéraux, quand on prononce le mot réduction de temps de travail, ils ont tout de suite les cheveux qui se hérissent sur la tête, ils ont des boutons, enfin bon. Or, la réalité n'est pas celle-là. Aujourd'hui, la question n'est pas d'être pour ou contre la réduction de temps de travail. La réduction du temps de travail, elle se voit aujourd'hui avec le développement du chômage, du sous-emploi, de la précarité. Ça, c'est une forme très violente et inégalitaire de réduction de temps de travail. Mmh. Donc la question, c'est pas d'être pour ou contre, mais c'est de l'organiser sur des bases collectives qui permettent à chacun d'avoir un emploi et un revenu décent.
Voilà, on est toujours avec les économistes atterrés qui sortent leur bouquin « Changer d'économie » avec des propositions. On vient d'en entendre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose. Je suis toujours avec mon numéro du magazine L'Express avec le mot « crise » en rouge sur noir. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de la crise. Hein, on se souvient comment l'attentat du 11 septembre 2001 avait été une aubaine pour les adeptes de la sécurité. Hein, on avait eu le Patriot Act aux États-Unis, mais un peu partout, au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a eu un bond en arrière de la démocratie à la suite de cette utilisation. Est-ce que c'est pas un peu la même chose actuellement avec la crise? C'est ce que dit Conscial dit, c'est-à-dire que la crise a bon dos. Il faut tous qu'on se serre la ceinture comme si on était tous responsables de cette crise, y compris les chômeurs, y compris tous ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Il faut accepter bien évidemment les plans d'austérité et puis voilà de belles aubaines pour les privatisations. Je pense qu'au nom de la crise, on fait il y a pas mal d'abus.
Oui, c'est vrai dans deux domaines qui sont particulièrement frappants. Le premier, c'est la protection sociale à l'échelle européenne. Quand vous regardez la stratégie de la Commission depuis 20 ans, la Commission se bat pour réduire la protection sociale, pour affaiblir les systèmes publics et pour accentuer les systèmes privés. Et là, avec la crise, dans tous les pays, on impose des réformes épouvantables. La Commission, dans tous les pays, essaye d'imposer la retraite à 65-67 ans. Et la retraite à 65-67 ans, c'est une baisse extrêmement importante du niveau des retraites. Ça veut dire que les gens de 60 à 65 ans, ils se retrouvent dans des situations absolument horribles et ça passe à cause de la crise. Et le second point qui est particulièrement frappant, depuis 20 ans, la Commission, elle essaye de s'attribuer le maximum de pouvoir et de priver les gouvernements démocratiques élus de la possibilité de faire des politiques autonomes. Et là, on a, depuis 2 ans, un déferlement de propositions, le premier semestre européen, le pacte de compétitivité, et puis là, ce qui a été proposé, la réforme budgétaire proposée par Sarkozy ou Merkel, où l'idée, c'est toujours la même, imposer à tous les pays des politiques budgétaires automatiques, imposer la règle d'or dans les constitutions et arriver à un système dans lequel les pays seront obligés, année après année, de faire des politiques restrictives.
Donc, pour compléter ce que disait Henri, ça veut dire en clair, concrètement, sans décodeur, que plus on va mal, plus on va être puni. Et plus on va être puni, plus on va payer d'amende, plus on va aller mal. C'est un cercle vicieux
oui,
complet.
C'est ça, l'austérité.
Et c'est les réformes qui ont été prises, là, au mois de mars, au sommet européen du 23-24 mars et celles du 8 et 9 décembre, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que les budgets nationaux vont être sous contrôle de la Commission. On va avoir le semestre européen, ce dont parlait Henri. Ça veut dire quand même qu'au mois de mars, le Conseil se réunit, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui va définir des grandes orientations. Ensuite, nos parlements vont voter un budget jusqu'au mois de mai, de mars à mai. Et en juillet, le Conseil et la Commission vont trancher, vont nous dire « Ah non, non, dans votre budget, là, non, il y a des choses. Ah, vous voulez, Monsieur Hollande, vous voulez recruter 60 000 profs ? Non, ça ne va pas le faire, c'est pas possible. » Donc, vous vous rendez compte, ça veut dire quand même que les budgets ne seront plus totalement sous contrôle des parlements. Ce que je trouve assez choquant. Parce que à partir du moment où on a décidé de faire une union monétaire, on a transféré la politique monétaire et la politique de change au niveau européen, d'accord, mais on avait encore le contrôle sur les budgets. C'est le dernier levier qui restait aux États. Maintenant, avec ces réformes, bah, ils en tirent parti justement pour confisquer toutes les petites onces de démocratie. Et le budget, c'est une once de démocratie importante.
Oui. Comment ça se passe entre vous, les atterrés, là, quand vous parlez de l'euro? Vous écharpez
Non, mais c'est très intéressant. Justement, contrairement au débat qu'on peut avoir avec les économistes néolibéraux, là, on voit qu'il y a des propositions constructives. On est assez différents entre nous. On a souvent des différences, mais on a des débats très constructifs qui débouchent sur des propositions, des synthèses. C'est très stimulant intellectuellement. contrairement à d'autres débats.
De toute façon, la question de l'euro.
On aimerait bien que ce soit stimulant politiquement.
Oui, mais ça l'est. Je pense que ce
n'est pas
ouvrage
des plaisirs d'un télo qui s'éclate.
Notre ouvrage Le Monde, d'ailleurs, un certain nombre de propositions.
Dans l'ouvrage, vous verrez, il y a plusieurs propositions sur l'Europe. Mais le problème.
Benjamin Coria.
Le problème de l'euro et de la zone euro, d'une certaine manière, il n'est plus entre nos mains. Ça veut dire que, compte tenu de la pression qu'exercent les marchés financiers sur la dette, et compte tenu de la manière dont l'Europe assume cette pression et la relaye sur les États nationaux, et compte tenu, en plus, de la manière dont les États nationaux, à commencer par le nôtre, se fait le porte-parole de cette pression, etc. Bon, c'est plus entre nos mains. Ça veut dire que si on continue comme ça, c'est le modèle grec, ça explose. La question, elle est...
Qui se généralise à toute l'Europe.
Moi, mon sentiment, et je crois que c'est largement partagé, si ça continue comme ça, l'Europe explose. C'est pas des économistes atterrés qui vont faire exploser l'Europe, c'est les libéraux qui vont faire exploser l'Europe.
Le problème, c'est que les classes dirigeantes et les marchés financiers n'ont pas actuellement de stratégie de sortie de la crise. Et on voit toutes les semaines la catastrophe totale. On voit les marchés financiers spéculent contre les États, ça fragilise les États, du coup ça fragilise les banques, il y a des pertes au niveau des banques, donc les marchés financiers spéculent encore plus, et il y a un processus qui s'est déclenché que les marchés financiers et les classes dirigeantes ne réussissent plus à enrayer. Et au niveau de l'Europe, on a cette catastrophe aussi, qu'étant donné les méfiances respectives entre les différents pays, il n'y a pas non plus actuellement de solution libérale.
Non, il y en a pas.
C'est-à-dire que l'idée allemande disant on va imposer à partout des politiques d'austérité, on voit que ça ne marche pas parce que le résultat, c'est que ça crée encore plus de troubles, de déficits dans les pays du Sud, que finalement, même l'Allemagne va être atteinte par cette crise. Il n'y a pas de miracle. Et donc, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de stratégie libérale actuellement.
Donc, ce qu'on dit en positif, c'est que il y a peut-être un moyen de sauver l'Europe, et il y a peut-être un moyen de sauver l'euro. Ça passe par désarmer les marchés financiers et les mettre hors jeu, leur dire allez jouer ailleurs. Bon, donc ça passe par des initiatives et des réformes du comportement de la Banque centrale.
Dites-moi comment.
On dit la Banque centrale, au lieu de distribuer 500 milliards d'euros aux banques pour qu'elles gagnent de l'argent sur une dette sur laquelle la spéculation continue, qu'elle arrête de jouer à ça, qu'elle achète les dettes, comme tout le monde. Deuxièmement, il faut rétablir une base fiscale véritable. Il faut faire la contre-révolution fiscale. On a une révolution fiscale libérale où c'était la course au moins-disant, favorisée par la non-harmonisation fiscale en Europe, bien, et dans lesquelles les États ont fait la course à qui allait moins taxer les hauts revenus, à qui allait moins taxer les revenus du patrimoine. Ça, c'est pas possible. On peut pas faire l'Europe avec ça. Donc, on regagne du temps avec la Banque centrale qui nous met hors de la pression des marchés financiers. Deux, on rétablit une base fiscale juste, c'est-à-dire en déplaçant la fiscalité du travail vers le capital, etc. Bien. Et trois, si on a mis de l'ordre dans la fiscalité et si on l'a mise à un niveau européen, alors après, on a des marges. On a des marges pour la politique industrielle, on a des marges pour la politique sociale, on a des marges pour la croissance. Et on peut sortir par le haut. La probabilité qu'on sorte par le haut de cette crise, pour être tout à fait réaliste, évidemment, elle est peu élevée. Mais ceux qui détiennent la solution d'une sortie par le haut, c'est ceux qui disent ce qu'on dit. Personne d'autre.
Pour compléter ce que disait Benjamin sur la Banque centrale et aussi sur la stratégie européenne, sur la Banque centrale, quand j'entends qu'on nous traite d'utopiste en disant qu'on aura acheté la dette publique, la Fed le fait tous les jours. Elle le fait tous les jours. La Banque centrale anglaise le fait tous les jours.
Oui,
mais quand vous dites
aussi,
ça, on vous regarde comme si vous apparteniez aux Brigades Rouges. C'est vraiment délirant. Oui. C'est vraiment... Pour compléter ce que disait Benjamin sur la stratégie européenne, et il faut réguler la finance. On propose aussi de revaloriser la politique agricole commune, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui, pas cette politique intensive, etc. Promouvoir une agriculture indépendante, de qualité, ça aussi c'est important. Réhabiliter les grands programmes européens, enfin, le modèle social. Au lieu de faire du moins-disant social, on propose de prendre le contre-pied de tout ce qui se faisait ces dernières années. Développer ce modèle social, développer des minima sociaux, des salaires minima dans chaque pays en fonction de la situation économique, de la couverture sociale des retraites, on propose le contre-pied.
En somme, vous voulez remettre le monstre capitaliste dans la cage.
Il n'y a pas d'autre solution, je pense. Parce que Henri Stadignac disait tout à l'heure, les libéraux n'ont pas de stratégie. je suis d'accord sur le fond. On peut dire, si, ils ont la stratégie d'aller dans le mur et de créer de plus en plus de dégâts sociaux.
Et la stratégie, c'est la stratégie du choc, c'est-à-dire profiter de la crise. Voilà. C'est-à-dire profiter de la crise, non pas pour reculer et remettre de l'ordre, mais essayer d'avancer encore. Et là, ce qu'ils ont en mire, c'est la politique sociale. Ils ont eu déjà plein de choses, et maintenant, ils veulent avoir la politique sociale à travers la pression sur la dette publique. Bon, mais ce qu'on pense, et je crois qu'on n'est pas les seuls, on pense que cette stratégie, elle est suicidaire et qu'elle conduit absolument nulle part. Le réalisme a changé de camp.
Et d'ailleurs, si on a un certain succès, je pense que le citoyen ordinaire réalise de plus en plus cela. Même s'il ne l'entend pas dans les médias, il se rend quand même compte qu'il y a un problème entre le discours officiel et ce que lui, il vit au quotidien, tous les jours. Ça explique aussi le succès des atterrés. Un succès qui était, pour tout dire, inattendu au départ.
Vous regretterez le beau temps des crises, quand pauvres sans pain et riches gavés, nous serons aux prises. Les drapeaux de Mars flotteront aux brises, les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. Vous regretterez le beau temps des crises, quand viendra le peuple en haut des pavés. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, le vil renégat et l'accapareur enverront de grise. Les politiciens auront des surprises, les Judas au ventre auront la terreur. Profitez-en bien du beau temps des crises, où le peuple veille et s'en va rêvant.
Et quand on dit « oui, mais les atterrés, c'est des néo-keynésiens », qu'est-ce que vous répondez à ça, Henri ? On s'en fout, non ? Oui, oui, pourquoi pas ?
On n'a pas honte d'être néo-keynésiens.
Parmi d'autres choses.
Keynésien, les néo-keynésiens, ça veut dire d'abord que l'État doit réguler l'économie. On a besoin d'une régulation à l'échelle mondiale. Le keynésianisme au sens large, c'est aussi, on a besoin d'un État social fort, on a besoin de retraite, de chômage, on a besoin de prestations familiales. Et puis le keynésianisme, c'est aussi l'idée que on a besoin d'une politique industrielle. On peut pas laisser les marchés
décider
de tout. Et puis, il y a un autre point qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir, c'est la question écologique. On est soumis à des contraintes écologiques, à des contraintes en matière d'énergie. Et ça pose une question à tous les pays. Comment on fait ? Est-ce qu'on va dans un système où il y aura une inégalité croissante, où il y aura des riches qui ne subiront aucune contrainte et les pauvres sur lesquels toutes les contraintes vont peser ? Qui devront payer leur chauffage à des prix fabuleux, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on organise la transition écologique pour avoir une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus sobre, et ça suppose naturellement que les besoins soient socialement décidés. On ne peut pas laisser les entreprises, pour des raisons de rentabilité, imposer des besoins artificiels qui ne pourront pas être généralisés à l'ensemble de la population. Donc l'avenir, c'est la maîtrise sociale de l'évolution économique. Donc il faut être keynésien et mettre un coup d'arrêt à la dérive libérale.
Votre point de vue aux uns et aux autres ?
Moi, je vais vous dire une chose. On ne se fera prendre au piège d'aucunisme. La situation est extrêmement sérieuse, elle est grave. Il faut une série de mesures qu'on essaye progressivement d'élaborer. Il faut que ces mesures soient mises en débat, que les citoyens tranchent. Alors qu'on appelle ça d'un isme donné ou d'un autre, je crois que ça nous est parfaitement égal.
On parlait des candidats aux élections prochaines, il y aura des législatives qui suivront. Est-ce qu'ils vous consultent ? Est-ce qu'ils s'intéressent à vos travaux ? Est-ce qu'ils vous appellent de temps en temps disons, on va vous piquer cette solution, nous la commandons là. On peut en copier votre page 128 ?
Avec plaisir. Notre but, c'est que les citoyens s'emparent de nos propositions et que ils essayent d'influencer les hommes politiques pour qu'effectivement soient mis en œuvre des stratégies de rupture.
Benjamin Coria.
Non, pour répondre à votre question de manière indirecte, nous avons comme doctrine de pratiquer vis-à-vis de tous les partis la bonne distance. Ça veut dire que la vertu numéro un des économistes atterrés aujourd'hui et demain, c'est leur indépendance. Il faut absolument qu'une pensée critique libre de tout engagement politicien, de toute combinaison, puisse continuer à se développer. Mmh. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, nos interlocuteurs, c'est les citoyens, d'accord ? C'est pas les partis. Deuxièmement, plus des gens appartenant à des partis s'empareront de nos propositions pour les faire fonctionner, plus on sera satisfait. Voilà.
J'ai une dernière question pour finir. Quand vous écoutez Marine Le Pen, elle reprend beaucoup de ses idées. Comment vous réagissez à ça ?
Il y a quand même, heureusement, une partie du programme de Madame Le Pen qui n'a strictement rien à voir avec nous. Hein, c'est toutes les idées selon lesquelles on pourrait économiser des milliards et des milliards en privant les immigrés de protection sociale ou en les renvoyant chez eux. Donc ça n'a rien à voir avec nos positions, bien sûr, qui sont des positions de solidarité avec les travailleurs immigrés. Par ailleurs, Madame Le Pen, c'est le symptôme. C'est un symptôme d'une désaffection des classes populaires vis-à-vis de la politique.
Et le contraire aussi. Une désaffection des politiques vis-à-vis de la classe populaire.
Le fait qu'actuellement, on n'a plus de grands partis populaires qui pouvaient donner des aspirations, un programme à la classe ouvrière. Donc c'est évidemment extrêmement dangereux de voir ce mouvement où on dévoie les classes populaires en leur faisant croire que l'ennemi, c'est le travailleur immigré qui habite à 200 mètres de lui. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de dire aux hommes politiques qu'il faut une autre stratégie qui ouvre effectivement des perspectives aux classes populaires qui sont actuellement victimes de la désindustrialisation, de la mise en cause de la protection sociale, de la précarité, etc.
C'était Changer d'économie, un entretien de Daniel Mermet avec les économistes atterrés. Merci à Henri Sterdignac, Dany Lang, Benjamin Coria, Christine Herrel et Pierre Consiglialdi. Toutes les informations sont sur le site de France Inter ainsi que sur le site la-bas.org. À la technique, Dophar Guéride et Alice Berger, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Le prix de l'essence a battu un nouveau record en France vendredi dernier, selon les relevés hebdomadaires publiés aujourd'hui sur le site internet du ministère du Développement Durable. Le prix du litre de Super Samplon 95 a atteint 1,55€, le 98 1,59€, soit 1 centime de plus par rapport au dernier record de l'an dernier au mois de mai. Trois jours après la dégradation de la note de la dette, la France a emprunté aujourd'hui plus de 8,5 milliards d'euros à des taux légèrement en baisse. Une bonne nouvelle qui prouve, selon les spécialistes, que la perte du triple A avait largement été intégrée par les marchés. Mercredi, Nicolas Sarkozy réunira les partenaires sociaux à l'Élysée à l'occasion d'un sommet social. Il faut, selon l'UNSA, des mesures d'urgence pour l'emploi. L'Union nationale des syndicats autonomes, qui n'a pas été invitée au sommet, souhaite une réunion de l'intersyndicale nationale pour tenter de faire valoir une parole commune du syndicalisme. De son côté, le numéro 1 de la CGT estime, lui, que le sommet social relève de l'affichage politique préélectoral. Bernard Thibault appelle à la mobilisation tout en regrettant la passivité coupable des syndicats. Entre ce soir et demain, une quarantaine de vols sont d'ores et déjà annulés à l'aéroport de Lille. Les contrôleurs aériens sont en grève. Ils réclament des effectifs supplémentaires pour faire face à l'augmentation du trafic. Elle s'appelait Élodie Kulik. En 2002, cette directrice d'une agence bancaire dans la Somme avait été violée et tuée, son corps découvert dans un champ en partie calciné. 9 ans après ce sordide fait divers, on apprend aujourd'hui qu'un suspect a été identifié grâce à son ADN. La commission de révision se donne le temps pour trancher le cas de Christian Iacono. Elle se prononcera lundi prochain sur la sortie ou non de prison de l'ancien maire de Vence. Ce matin, le parquet s'est prononcé contre, condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit-fils. Christian Iacono est retourné la semaine dernière en prison et ce malgré le retrait des accusations de son petit-fils en mai dernier. Philippe Courroy voit rouge lors de l'audience de rentrée solennelle au tribunal de grande instance de Nanterre ce matin. Le procureur a fustigé les donneurs de leçons fielleux, dépourvus de mémoire et de bilan. Philippe Courroy a mis en avant les 126 000 affaires pénales reçues l'an dernier. Il s'est félicité du taux de réponse rapide des plaintes passées, 83%. Le procureur de Nanterre est sous la menace actuellement d'une mise en examen dans l'affaire de l'espionnage de journalistes du Monde, en marge de l'affaire Bettencourt. Les conditions météo sont meilleures que ce matin. Les recherches pour tenter de retrouver les 14 disparus du Costa Concordia ont repris cet après-midi au large de l'Italie. La situation est à un point inacceptable. Les mots sont de Ban Ki-moon et ils concernent la Syrie. Le secrétaire général de l'ONU dit aujourd'hui espérer que le Conseil de sécurité des Nations Unies agira de manière plus cohérente et sérieuse pour arrêter l'effusion de sang. Aujourd'hui encore, 5 civils ont été tués à Homs dans le foyer de la contestation au régime de Bachar el-Assad. La police australienne enquête actuellement sur Stuart O'Grady. Le 10 janvier dernier, le cycliste vainqueur du Paris-Roubaix en 2007 aurait agressé un chauffeur qui le ramenait d'une soirée passée entre amis. Le cycliste australien nie les faits et parle plutôt de comportement dissipé dans la voiture de son chauffeur. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les jours, à partir de 11h...
Non, je suis ennuyé parce que j'ai envie de vous aimer.
Les affranchis.
Vous n'avez rien bu, là.
Isabelle Giordano.
Rien fumé, ce matin.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des affranchis avec leurs invités, Juliette et Claude Rich.
Voilà.
En direct du studio 106.
C'est un petit peu le bazar, hein. C'est pas comme ça tous les jours.
C'est assez dissipé.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon, c'est maintenant. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Il y a quand même de bonnes nouvelles, vous le savez, le film The Artist a été récompensé aux Golden Globes. C'est peut-être un prélude aux Oscars, tout à fait favorable à ce beau film français. Et ben, il faut féliciter Jean Dujardin qui a reçu un de ses Globes. Il y a aussi un prix pour la meilleure comédie et puis pour la meilleure musique, ce qui nous occupe. J'avais déjà diffusé quelques extraits de la BO, comme on dit, la bande originale du film, de la musique de Ludovic Bourse. Et je vais vous faire entendre un peu de l'ouverture. Par exemple, joué par un grand orchestre, un orchestre philharmonique, c'est peut-être ça qui a impressionné aussi le jury, mais il y a le talent de ce compositeur qui a écouté beaucoup de grands classiques ou romantiques avant de fixer sa participation autour de ce film en noir et blanc, je le rappelle, donc il faut quand même que, évidemment, la bande-son est une présence, nos acteurs, Jean Dujardin, on le félicite, Bérénice Bejo, dommage, elle n'a pas eu cette récompense, mais on la récompense, nous, de tout cœur, pour ce qu'elle a fait, c'est la petite figurante qui devient, elle, une star, parce que le parlant arrive et lui, Dujardin, est largué. C'est comme ça, c'est une mutation. Enfin, quel bel acteur. Ouverture de The Artist. grand orchestre, je l'ai dit, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, l'Orchestre des Flandres, dirigé par Ernst von Thiel. Donc c'est un beau début, une sorte de petite ouverture cathédrale, et ça ouvre sur l'histoire donc de ce George Valentin qui va perdre le succès petit à petit, qui va voir sa vie se dilapider, se dégrader en raison d'un changement de technologie. Mais c'est vrai, c'est une histoire qui arrive dans de nombreux domaines. Ben voici le portrait du personnage, du magnifique du jardin qui avait déjà été primé à Cannes, je le rappelle, pour le même film. Voici George Valentin. La dégaine musicale du séducteur George Valentin dans le film The Artist de Michel Hazanavicius, qui n'a pas eu de Golden Globe. Il y avait Scorsese, évidemment, c'est lui qui a été récompensé. Ah, quelquefois quand il y a un monstre à côté, mais enfin c'est un superbe film The Artist. Et donc on a entendu de nouveau l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles et l'Orchestre des Flandres. Il y a un tiré entre les deux, et donc ils sont soutenus par la ville de Bruxelles et certainement par les puissances des Flandres, et dirigés par Ernst von Thiel, toujours. Et dans un film, et dans la musique du film, il faut des moments moments un peu angoissants, pas seulement dans les films d'Hitchcock. Enfin, évidemment, Bernard Herrmann a été le maître de l'horreur du suspense, et peut-être que Ludovic Bourse s'en est un peu inspiré. Voici Les fantômes du passé. Les fantômes du passé, vus ou plutôt entendus par Ludovic Bourse, le compositeur de la bande originale, presque tous les morceaux, pas tous, mais presque tous, du film The Artist, couronné au Golden Globes tout récemment. Et donc on a entendu, je rappelle, l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, l'Orchestre des Flandres, dirigé par Ernst von Thiel. Et ben voilà, on peut trouver cette musique sur un disque avec un DVD bonus, quelques moments de préparation, le making-of, comme on dit, de ce film. Et évidemment, c'est très touchant, on est très fiers, un film français et de très 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 beaux acteurs, un magnifique réalisateur.